Parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Que la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Parlez-moi d'IA, présenté par Serge Habitboul.
Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je suis au micro pour l'animation de cette nouvelle émission. Continuez à être tolérant, je ne suis pas plus qu'avant un journaliste pro, mais juste un informaticien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de médecine et d'IA. Notre invité est Louis L'Enfant, un médecin. Il a soutenu une superbe thèse à Sorbonne Université. Il est chef de clinique au service d'urologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Alors, accordez-vous 10 minutes pour interroger une nouvelle fois ce que provoque l'éruption de l'intelligence artificielle dans nos vies, d'un point de vue social, culturel, éthique, technique, politique et tout.
Cause commune, 93.1 FM.
Vous êtes bien sur Cause commune, la voix des communs, la voix des possibles. Vous nous écoutez sur le web, cause-commune au singulier.fm et sur son app mobile, sur la bande FM à Paris sur 93.1 et sur le DAB+, en podcast sur votre plateforme préférée. Chers auditeurices, si vous appréciez Parlez-moi d'IA, vous pouvez nous aider en likant et partageant notre émission. Cela nous fait connaître, car ça manipule les algorithmes et...
C'est cool de manipuler un algorithme. Écoutez, Parlez-moi d'IA.
Dans ce podcast, nous parlons d'intelligence artificielle, comme d'habitude. L'IA a des résultats superbes dans de nombreux domaines, mais ils sont parlants dans un domaine d'application particulier, la médecine. Peut-être parce que ça touche directement tout le monde. J'ai donc invité Louis, qui est chef de clinique à la Pitié-Salpêtrière, pour nous en parler. Alors, en voiture avec lui. Bonjour Louis.
Bonjour Serge.
Merci d'être avec nous en studio pour l'émission Parlez-moi d'IA. Pour commencer, peux-tu nous dire rapidement quel est le parcours qui t'a conduit à devenir médecin, et plus précisément urologue? D'où tu viens en gros?
Eh bien, je viens d'une famille de médecins déjà. Donc, c'est souvent les chiens font pas des chats. Donc, j'ai un père qui est orthopédiste et un grand-père urologue. Et voilà, je me suis décidé assez tôt à faire médecine, mais surtout pour devenir chirurgien. Et par contre, le choix de l'urologie est venu un peu plus tard, au cours des études. Voilà, c'est une spécialité qui est très large, qui va de la pathologie fonctionnelle au cancer, en passant par la transplantation. C'est une discipline où on manipule au bloc opératoire différents types d'outils, la chirurgie endoscopique, la chirurgie ouverte, la chirurgie robotique. Et c'est vraiment ça qui m'a plu en urologie. Donc j'ai fait mes études à Paris-Descartes, et puis un internat à Paris, et maintenant chef de clinique à la Pitié.
Super. Mais alors, j'imagine que tu n'avais pas de grand-père informaticien. Alors, comment t'en arrivais à t'intéresser à l'intelligence artificielle?
C'est une bonne question. Je suis sur un parcours hospitalo-universitaire dans lequel on nous demande de faire une année à l'étranger. Donc, une année de mobilité. Et j'ai eu la chance de partir à Cleveland, aux États-Unis, dans l'Ohio, et pendant cette année de recherche pure, finalement, j'ai pu apprendre à manipuler des outils informatiques, particulièrement pour faire du code, en fait, pour les statistiques. Ça m'a beaucoup plu, et j'ai travaillé aussi avec Pierre Moser, donc, qui est un des PUPH, donc un des professeurs d'urologie à la Pitié, qui m'a proposé assez tôt de faire une thèse où il y avait de l'IA qui était le cœur du sujet, et je dois dire que ça m'a beaucoup plu.
Bon, alors, on va rentrer un peu dans l'art, dans le sujet maintenant. Tu as fait ta thèse, alors je cite, sur la segmentation d'images échographiques de la prostate assistée par intelligence artificielle, définition de critères de qualité et réflexion sur la vérité terrain. Tous les mots sont importants. C'est un long titre pour un long programme. Le diagnostic du cancer de la prostate est au cœur du sujet. Pour démarrer en douceur, est-ce que tu pourrais nous dire rapidement comment on diagnostique ce cancer ?
Oui, bien sûr, c'est le cœur du sujet. Le cancer de la prostate, c'est quand même un cancer qui est très fréquent. C'est le cancer le plus fréquent chez l'homme. Il y a 50 000 nouveaux cas par an en France, donc c'est vraiment un enjeu très, très important. C'est la troisième cause de décès par cancer chez l'homme. En fait, en France, ce qu'on propose, c'est de faire un dépistage individuel précoce, c'est-à-dire que les hommes qui vont avoir plus de 10 ans d'espérance de vie, on va leur proposer de faire un test sanguin assez simple, qui est le PSA. Si ce PSA est anormal, on proposera aux patients de faire une IRM. Sur cette IRM, on peut voir assez précisément les zones qui sont suspectes. Le diagnostic positif du cancer, c'est-à-dire on affirme la présence du cancer, avec un examen anatomopathologique, donc un médecin qui regarde dans un microscope ce qui est prélevé lors de la biopsie et qui peut dire si oui ou non il y a des cellules cancéreuses.
D'accord. Donc c'est vraiment cette biopsie qui est au cœur de ton travail. Et à la base de cette biopsie, il y a quelque chose qui s'appelle la segmentation d'image. Tous les éditeurs ne sont peut-être pas familiers avec ce concept. Tu peux nous expliquer. Donc il y a l'IRM qui donne des images, il y a l'échographie qui donne des images, et on segmente tout ça. C'est ça que tu peux nous expliquer?
Alors, il faut faire un peu d'histoire, en fait, pour y comprendre quelque chose. Donc, pendant très longtemps, on a fait le diagnostic du cancer sur les biopsies en faisant des prélèvements un peu aléatoires dans la prostate, parce qu'on n'avait pas l'IRM. Depuis qu'on a l'IRM, on sait exactement les zones qui sont suspectes, et donc on sait les zones qu'il faut biopsier. La difficulté, c'est que le geste de biopsie, il est fait sous contrôle échographique, mais le diagnostic précis, finalement, en imagerie, il est fait en IRM. Donc, des chercheurs ont mis au point des outils pour fusionner les images d'IRM et les images d'échographie pour permettre au clinicien, à l'urologue qui fait la biopsie, de mettre son aiguille exactement au bon endroit. Pour faire cette fusion, il faut segmenter en fait à la fois sur l'IRM et sur l'échographie. Segmenter, c'est un mot un peu compliqué pour dire qu'on entoure, en fait, on fait un contour de la prostate en trois dimensions. Et le contour 3D de l'IRM et de l'échographie vont être fusionnés, ce qui nous permet, quand on fait l'échographie, quand on fait la biopsie, d'avoir en fait la cible visualisée dans l'IRM, on la voit dans l'image d'échographie.
Donc pour être sûr de bien avoir compris, au moment du geste, au moment de l'opération chirurgicale, on dispose de l'échographie et en amont, on a fait une IRM et c'est de là qu'il faut recaler, c'est ça?
Exactement.
D'accord. Alors, pourquoi c'est difficile techniquement? C'est quoi? Il y a de la géométrie? Qu'est-ce qui rend le problème difficile et compliqué?
Ce qui le rend difficile, c'est que faire une biopsie ciblée, ça implique de savoir lire parfaitement une IRM, de savoir lire parfaitement une échographie et de prendre le temps de faire cette segmentation. Dans le cadre de la thèse, on a fait un travail clinique hein, qui nous a montré en fait combien de temps on mettait pour faire une segmentation en IRM et en échographie. C'est à peu près 5 minutes par segmentation. Donc ça fait déjà 10 minutes pour un geste qui pourrait être raccourci en fait. Donc il y a vraiment une compétence à la fois technique mais aussi un facteur temps qui fait qu'aujourd'hui en fait cette biopsie ciblée en fusionnant les images d'IRM et d'écho, elle est accessible en fait à assez peu de monde. On estime en France qu'il y a 10 à 15% des urologues qui font ce geste de biopsie ciblée avec un outil informatique, et l'objectif c'est quand même que tout le monde puisse y avoir accès sans avoir besoin de compétences très importantes en lecture d'imagerie et puis de raccourcir un peu ce geste pour les patients.
Donc pour comprendre, l'idée c'est pas de demander aux médecins de se former plus, de faire plus de biopsies pour devenir très compétents, mais c'est de faciliter la tâche en leur donnant des outils plus adaptés, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est de raccourcir la courbe d'apprentissage hein, qui prend à peu près 50 biopsies, c'est un travail qu'on a aussi publié, donc de raccourcir cette courbe d'apprentissage, mais aussi de rendre la biopsie ciblée accessible au plus grand nombre et que ça soit un outil d'utilisation quotidienne pour les urologues pour que les patients aient un diagnostic précis et puis aussi un diagnostic plus rapide. C'est-à-dire que le geste de biopsie, c'est un geste qui peut être un peu désagréable pour le patient, et donc raccourcir ce geste, c'est aussi in fine finalement rendre la chose plus facile pour nos malades.
Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu as parlé d'une cinquantaine de biopsies pour l'apprentissage, et là, on parle de l'apprentissage de l'urologue.
Exactement.
Et il y a un autre côté qui nous intéresse ici, c'est l'apprentissage du machine learning, l'apprentissage de la machine, de l'algorithme. Et là, un des aspects de ta thèse, c'est que vous avez pu disposer d'une quantité assez importante de données sur de la segmentation pour pouvoir entraîner l'algorithme logiciel, c'est ça?
Exactement. En fait, j'ai la chance d'être dans un service où déjà on a participé à l'élaboration de l'outil de fusion. Et dans le cadre de ce projet qui a 15 ans maintenant, on a fait une collection prospective de toutes les données. À la fois les données IRM, mais aussi les données échographiques, les données de localisation précise des prélèvements, et bien sûr le diagnostic de cancer. Et donc finalement, on a une base qui contient à peu près 4500 patients, où on a toutes les imageries, toutes les échographies, toutes les IRM. Donc c'est vrai que dans la perspective d'entraîner des algorithmes, c'est des bases qui sont extrêmement intéressantes.
Alors, il y a un truc qui m'intéresse, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans beaucoup d'autres applications de l'IA. Tu parles beaucoup dans ta thèse de la qualité des données de terrain. Et là, la question se pose aussi des données sur lesquelles tu vas entraîner le logiciel, sur le fait que deux médecins extrêmement compétents vont pas forcément... donner la même donnée, vont pas forcément faire la même segmentation sur la même sur une prostate. C'est ça qui complique aussi les choses. Il y a de l'imprécision dans les données sur lesquelles on entraîne le logiciel.
Exactement, et c'est finalement le cœur du sujet de ma thèse. L'objectif n'était pas de développer un énième algorithme qui fasse de la segmentation, puisque en fait aujourd'hui on a des algorithmes qui sont très bons et donc c'était pas le sujet. Le sujet, c'était de vraiment comprendre quelle était la vérité terrain à donner à nos algorithmes pour avoir finalement les meilleurs résultats. Et comme tu le disais, deux urologues experts vont pas forcément segmenter une prostate de la même manière. Et donc, on a vraiment cherché à comprendre quelle était déjà la variabilité inter-individuelle entre deux ou trois ou quatre urologues, puisqu'on a constitué une base multi-experts, et voir finalement si... cette variabilité, elle variait en fonction de la méthode de segmentation qu'on employait. Et voilà, on s'est rendu compte que finalement, entraîner des algorithmes avec des contours multi-experts, c'était assez intéressant et ça permettait surtout de diminuer le nombre d'images à donner à nos algorithmes. Donc finalement, c'est compliqué de constituer ce genre de base parce qu'on ne les a pas en pratique clinique courante. C'est assez rare finalement que plusieurs personnes segmentent la même image. Mais nous, on l'a fait de manière prospective pour ce travail de recherche et finalement, on s'est rendu compte qu'avec 100 images de prostate contourées par 4 urologues, eh bien, on avait des résultats qui étaient aussi bons que si on les avait entraînés sur 1000 images segmentées par un seul urologue.
Alors, quelque chose qui m'a intéressé aussi là-dedans, c'est que malgré ça, les logiciels que vous obtenez ne sont pas aussi bons que les meilleurs urologues.
Ah oui, alors ça, c'est un autre sujet. Effectivement, à la fin de la thèse, finalement, on a essayé de donner des métriques qui aient une corrélation finalement clinique. Parce que quand on fait de l'entraînement d'algorithmes d'intelligence artificielle, pour évaluer nos algorithmes, on utilise souvent des métriques qui sont assez géométriques. On va regarder le taux de recouvrement entre la segmentation de la vérité terrain et la segmentation proposée par l'algorithme. On va regarder les distances moyennes des contours à contours. Puis on va regarder les outliers, les points les plus variables, on va dire. Mais finalement, on n'a aucune idée de savoir si une augmentation de performance d'un ou d'une autre métrique va avoir un impact sur le diagnostic. Et c'est ça qui m'intéresse moi en tant que clinicien. Et finalement, on a regardé une métrique particulière qui était la différence de volume relative entre les segmentations IRM et écho. Et on s'est aperçu en fait que un algorithme d'intelligence artificielle à l'heure actuelle, ceux qui sont les plus courants, donc là on a étudié NNUNET et UNET 3D, on s'est rendu compte que ces algorithmes-là faisait aussi bien, finalement, qu'un médecin qui aurait fait 50 à 200 biopsies. Par contre, quand on regarde les experts, ceux qui ont segmenté plus de 200, ceux qui ont réalisé plus de 200 gestes de biopsie, eh bien, on se rend compte qu'eux, ils ont des résultats avec cette métrique particulière qui sont meilleurs que l'IA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'IA, elle fait aussi bien qu'un neurologue confirmé, mais pas encore aussi bien qu'un expert.
Moi, je ne vais pas te poser la question de savoir si demain, ce ne sera plus le cas. Je vais plutôt partir sur une autre direction, c'est est-ce que c'est beaucoup utilisé cliniquement? Est-ce que ce sera bientôt? Et surtout, est-ce qu'on peut imaginer un jour d'automatiser aussi le geste du chirurgien?
C'est une très bonne question, parce qu'on a tous envie d'avoir cette réponse-là. Aujourd'hui, en pratique clinique courante, ce qui est utilisé, c'est de l'intelligence artificielle pour segmenter l'IRM. Ça existe déjà, les radiologues s'en servent en vie quotidienne. Pour l'échographie, c'est une histoire qui est un petit peu différente, Mais ça arrive là dans les tout prochains mois. C'est-à-dire que nous, on a fait un... Donc cette thèse, elle s'inscrivait dans un projet pour la compétitivité qui était financé par BPI, où il y avait finalement un partenaire industriel qui est Coelis et des partenaires académiques, des partenaires hospitaliers. Et donc cet industriel, grâce finalement à ce projet qui s'appelle Diana, a développé une machine qui contient finalement de l'intelligence artificielle. Et cette machine, elle va arriver là dans les tout prochains mois, en juin. Voilà, donc c'est demain en fait.
Et donc, et le geste
Pour le geste, bah, c'est l'étape d'après finalement. Paris s'est pas fait en un jour, mais en fait ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la littérature, il y a déjà des publications qui datent en fait même d'il y a 10 ans hein, sur la robotique appliquée aux biopsies de la prostate, et on voit que c'est faisable, que les robots ils ont déjà été brevetés, ils ont déjà été évalués, et donc on peut se dire que maintenant qu'on a automatisé finalement la partie de la planification du geste, bah, il reste à automatiser la partie de, voilà, du geste en lui-même, mais je pense que ça va arriver probablement dans les prochaines années. Ouais.
Et est-ce que ça pose pas la question, si on commence à prendre des tâches les plus complexes, et c'est des tâches quand même très complexes en médecine, si on prend les tâches les plus complexes et on les fait réaliser par des outils, des mécaniques, est-ce que ça pose pas la question de la place du médecin dans le soin à moyen terme ou à long terme?
Ouais, je pense qu'il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est que le médecin va rester le responsable, in fine, du diagnostic. Et donc, il faut absolument qu'à chaque étape, il puisse interagir avec les algorithmes d'IA. Par exemple, moi, ce qu'on préconise, hein, une des conclusions de cette thèse, c'est de dire que... Le workflow, donc c'est-à-dire la manière dont on va faire le geste et la planification, il faut que le médecin puisse interagir avec l'algorithme, le corriger et puis le valider. Ça, c'est très important. Et donc, à chacune des étapes, je pense qu'il faut que le clinicien ait la capacité de valider et que ça soit pas de l'automatisation pure, mais on va dire une automatisation supervisée. La deuxième étape, c'est que le deuxième point, c'est que au contraire, je trouve que c'est très intéressant qu'il y ait une grande partie des choses qui soient automatiques, parce que ça nous laisse le temps justement de ne pas être accaparé par les soucis techniques. Et tout ce temps qu'on aura en plus, bah, c'est du temps qu'on va utiliser pour discuter avec nos patients, leur expliquer mieux, les rassurer. Et finalement, c'est du temps d'interaction humaine qui va être un temps de qualité qu'on aura avec nos malades. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant.
Oui, moi aussi. Ce qui est intéressant dans ta thèse, ce qui résonne beaucoup avec cette émission, c'est qu'elle se situe entre deux domaines, la médecine et l'informatique. Et tu as par exemple été encore encadré par une brillante informaticienne, Jocelyne Trocaz, entre autres. Et ce que j'aurais aimé comprendre, c'est quels ont été tes rapports avec ces informaticiens, des gens qui ont peut-être appris un peu de médecine, mais qui sont d'abord fondamentalement des informaticiens. Et donc, quels ont été tes rapports avec eux? Et surtout, qu'est-ce que tu as eu besoin d'apprendre de l'informatique dans ce travail?
Ouais, le rapport avec le laboratoire de sciences dures, on peut dire, c'est ce que j'ai trouvé finalement le plus intéressant dans cette thèse. Et c'est vraiment quelque chose qui est assez extraordinaire d'être... de travailler en fait avec des gens qui viennent d'un monde complètement différent et qui finalement... mon travail pendant cette thèse, ça a été d'être l'interface entre la médecine et la recherche en informatique. Et c'est vrai que c'était vraiment extra de travailler avec Jocelyne, avec Sandrine Voros aussi, avec Clément Béton, donc du laboratoire TIMC à Grenoble. Et c'est ce que j'ai trouvé de plus enrichissant, en fait, d'être capable, enfin, en tout cas, d'essayer de discuter des problématiques cliniques et de trouver des solutions, finalement... grâce à l'informatique, grâce à nos algorithmes, etc. J'ai dû me former, comme tu le disais, oui, forcément, parce qu'il faut parler le même langage, parce que sinon, c'est compliqué. Alors, il se trouve que j'ai un tropisme quand même un petit peu pour l'informatique, et j'avais eu l'occasion donc, de me former à Cleveland sur le code, les statistiques, etc. Et puis, Clément m'a beaucoup formé donc, à Python, et puis... tout le reste. Donc c'était vraiment super intéressant. Ouais.
Et quand c'est ça qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'en même temps, tu codes toi-même. Et c'est quoi la différence entre être capable de coder soi-même sa propre appli et puis faire ses tests, etc., ou avoir un informaticien au bout de l'écran à qui tu donnes des instructions parce que tu as le même langage et qui va coder pour toi? Ça te permet de travailler différemment?
Bah, j'ai fait un peu les deux, en fait, dans cette thèse, parce qu'il y a toute une partie où j'ai été, on va dire, un peu en autonomie, donc toute la partie d'évaluation des segmentations semi-automatiques ou manuelles, où j'ai vraiment codé en Python avec ITK, VTK, et voilà, calculé mes métriques. Donc ça, c'était super intéressant. Quand on est passé à la partie IA dure, là, Clément a vraiment été avec moi pour lancer les tests sur le serveur, etc. C'était quand même un peu plus complexe. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre en fait les problématiques parce que les informaticiens quand même ont des contraintes. Nous on a des besoins, et finalement pour réunir les deux, il faut absolument parler le même langage pour arriver à trouver un résultat. Et puis c'est ça qui est vraiment super intéressant. Ouais.
Pour nos auditeurs, tu nous rappelles le nom de Clément?
Clément Bétonne.
Merci.
Qui est donc MCU à Grenoble.
MCU.
Maître de conférence des universités, pardon.
Merci. Alors maintenant, on va zoomer un peu out. Ton travail en urologie, c'est pas que la biopsie de la prostate. T'as peut-être d'autres projets de recherche sur lesquels tu travailles aujourd'hui dans ton travail quotidien, on va dire?
Oui. Alors déjà, il y a cette thèse hein, qui est terminée maintenant, mais qui va continuer puisqu'on a fait de l'évaluation sur... finalement une base rétrospective. On va avoir l'outil d'IA qui va être disponible, et l'objectif, ça va être de le valider de manière prospective en pratique clinique courante. Donc ça, ça va être un gros travail et qui est, à mon sens, super important, parce que finalement, on a envie de savoir si les résultats cliniques sont au rendez-vous. Ça va être une première partie de mon travail. Et puis après, j'ai une autre casquette qui est l'urologie fonctionnelle. Donc moi, je fais beaucoup de chirurgie robotique de reconstruction pour les patients qui sont... blessés médulaires, qui ont des scléroses en plaques, voilà. Et donc, je travaille aussi beaucoup sur le domaine de l'incontinence. Et donc, dans cette thématique-là, je fais pas mal d'analyses épidémiologiques de bases de données, notamment les bases de données du système national des données de santé, donc les bases de l'assurance maladie. Voilà, donc ça, c'est un sujet qui me passionne aussi et dans lequel je m'implique beaucoup.
Donc là, on touche un peu aussi aux questions de protection des données privées.
Oui, alors il faut savoir que ces données du SNDS, elles sont publiques en fait. C'est-à-dire que n'importe quel citoyen en France peut demander un accès. Alors bien sûr, c'est très contrôlé, ça passe par la CNIL, par le CESRES, enfin, il y a des organismes qui vérifient tout ça, il faut avoir un projet, il faut avoir une finalité d'utilité publique.
C'est un citoyen qui fait de la recherche
voilà.
Sur ce sujet-là.
Qui est un petit peu, voilà. Mais n'empêche que tout le monde peut y avoir accès. Alors c'est souvent des laboratoires de recherche quand même qui font les demandes, mais en tout cas, ces données, elles sont accessibles et probablement sous-utilisées à l'heure actuelle. Et il y a beaucoup de questions auxquelles on pourrait répondre de manière assez simple avec ces données, vu le volume des données qu'on a en France. Et c'est vraiment, à mon sens, une des fiertés qu'on peut avoir en France, c'est d'avoir, depuis plus de 20 ans, accumulé toutes ces données et aujourd'hui pouvoir les exploiter, surtout avec des outils d'IA qui nous permettront probablement de le faire de manière quand même un peu plus fluide. Et donc j'espère vraiment que dans le futur, on va pouvoir voilà, utiliser tout ça pour répondre à des questions pertinentes pour, in fine, soigner mieux nos patients.
Une autre question, j'ai vu autour de moi des amis de la famille qui faisaient des thèses de médecine, et c'est pas du tout comme ta thèse. Ta thèse, c'est comme beaucoup de travail. Enfin, c'est d'abord, c'était beaucoup dans le temps, et tu y as consacré un travail considérable, à mon avis. C'était assez intense. Comment tu as pu dégager tout ce temps en tant que tu étais clinicien? Donc, comment tu as pu dégager tout ce temps pour faire cette recherche qui, des fois, te faisait faire du code, faire de l'analyse de données, etc., qui n'avait pas rapport avec tes malades directement?
Oui, c'est une bonne question. J'ai eu beaucoup de chance, en fait. J'ai eu beaucoup de chance parce que quand Pierre Moser, donc urologue à la Pitié, m'a proposé ce travail, il m'a tout de suite dit qu'il était hors de question de faire ça le soir et le week-end. C'était c'est un projet qui est ambitieux et qui nécessite du temps long en fait de recherche. Pour me former au code, j'ai eu besoin de journées pleines en fait pour voilà pour travailler. Et donc finalement, mon projet, il a été cette thèse, elle a été financée. Donc comme je disais par le projet Diana, donc financé par BPI, et on a pu créer un poste en fait d'urologue à la Pitié grâce au financement de cette thèse. Ce qui m'a laissé 2 jours et demi par semaine en fait pendant 2 ans pour travailler uniquement sur ce sujet-là. Et je crois qu'il n'y a pas de secret en fait. On peut pas faire une thèse en tout cas en médecine, en chirurgie, si on n'a pas au moins du temps dédié pour le faire. La dernière année, j'avais plus ce temps-là parce que le poste était pour 2 ans et je dois dire que j'ai vu la différence.
T'as encore le temps d'écrire un peu de programme informatique ?
Oui, oui, je continue.
L'outil que tu as développé ou que vous avez développé marche bien, il a de bons résultats, donc on va être optimiste. Vous allez le déployer. Vous allez le déployer dans toutes les cliniques de France et de Navarre. Comment on fait concrètement pour prendre un outil qui est quand même un outil assez spécialisé, assez technique, et puis pour arriver à le déployer, comment on fait pour former, quel est le process qu'on utilise pour arriver à déployer un logiciel comme ça?
Eh bien, en fait, déjà, l'industriel, il est très implanté en France. C'est-à-dire que c'est un des principaux vendeurs de machines de biopsie pour la prostate. Donc, il va pouvoir en fait mettre à jour ces machines, mettre le nouveau logiciel dedans, et là, dès lors que le logiciel est présent, tous les urologues qui disposent de cette machine-là et qui ne l'utilisent pas forcément en fait à pleine capacité vont pouvoir l'utiliser. Donc ça va être déjà la première partie de la réponse. Après, à partir du moment, il y a beaucoup d'urologues, je pense, qui sont assez frileux pour faire ces biopsies parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont pas la compétence, que ça leur prend trop de temps et donc qu'ils ne s'y intéressent pas finalement. Mais quand ils vont voir les résultats, quand il va y avoir des communications en congrès, quand il va y avoir peut-être des sessions de formation organisées par l'industriel, je pense que ça va quand même favoriser finalement la diffusion de cette technologie et de ce savoir. Et puis après, il y a nos patients, parce que les patients, ils savent très bien, en fait, ils se renseignent, ils vont sur Internet, et donc ils vont aussi demander à leur urologue, mais est-ce que finalement, vous utilisez cette technologie? Et au bout du 10e patient qui va leur demander, ils vont probablement quand même aussi s'y mettre. Et voilà, je pense que c'est une technologie qui, dans 10 ans, sera probablement la technologie la plus utilisée pour les biopsies de prostate, et je crois pas qu'on fera encore de biopsie à l'aveugle ou sans IA. Je ne le crois pas, oui.
Et la formation humaine, c'est-à-dire on a des centres où les médecins vont se former, vont tester ces logiciels?
Oh, la formation, elle se fait principalement pendant l'internat. Et donc, c'est vrai que dans les centres académiques, aujourd'hui, la plupart sont quand même bien équipés, vont avoir cette technologie-là qui va arriver en fait l'année prochaine ou dans 2 ans. Et donc les internes qui sont actuellement en cours de formation, ils vont en fait se former probablement avec cette technologie dès le départ. Donc finalement, eux, leur courbe d'apprentissage va être très réduite. Ils vont tout de suite être efficaces et de manière en plus sécurisée pour nos patients. Parce que c'est-à-dire que même quelqu'un qui utilise cet outil, bah, il est déjà au niveau de quelqu'un qui en a fait 50. Donc pour les patients, c'est parfait. Ils vont pas, entre guillemets, pâtir de la courbe d'apprentissage du médecin, puisqu'on a un niveau de sécurité sur la détection qui est déjà très bon.
Et c'est ces jeunes qui vont aller former les vieux après dans les campagnes?
Ben, probablement, oui. Sujet sensible.
Je sais, j'imagine très sensible. Bon, c'est l'heure de conclure. Merci Louis pour ce partage de tes connaissances, de tes expertises, de tes passions. Ça a été super sympa de vivre cela avec toi. J'ai trouvé cela passionnant. J'espère que beaucoup d'auditoristes nous accompagneront. Trop merci Louis.
Bah, merci beaucoup pour l'invitation Serge. Et merci aussi à Jocelyne Trocas qui nous a mis en contact. Voilà, c'était vraiment un plaisir de partager ça ensemble ce matin.
Merci à vous, chers auditeurs. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à utiliser votre très grand pouvoir, liker, partager, cela stimule l'algorithme pour nous proposer à d'autres et surtout laissez-nous vos commentaires et impressions sur Apple Podcasts, Spotify ou LinkedIn, car cela nous fait extrêmement plaisir d'avoir vos retours. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune et à bientôt.